Sur l'affiche, un mandala, vous savez, ces dessins symétriques de cercles, de carrés ou d'octogones, propices à la méditation chez les bouddhistes. Ces dessins qui sont autant de représentations du monde et de notre psyché. Ces dessins qui ont ceci de singulier, qu'ils sont pour certains essentiellement éphémères, faits de sable coloré, composés avec une impressionnante dextérité, créés pour être offerts à une divinité, vouée en fait à être détruit, éparpillé. Sur l'affiche donc, il y a ce mandala qui évoque au gré de formes, de couleurs et de personnages son œuvre tout entière, les montagnes de la Suisse au Tibet, Calypso, Mickey Mouse, la Kate de Jonathan et puis la couverture d'À la recherche de Peter Pan. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout s'inscrit dans la structure, l'harmonie, l'épure de ce dessin ancestral qu'est le mandala. Son œuvre, ce serait tout ça. Elle inviterait à la méditation, à se promener en pensée suivant les lignes qui sont dessinées. Il suffirait de la regarder, de contempler quelque chose qui s'apparente à la beauté. Mais rien n'est permanent, ni le mandala, ni le monde. Tout passe, tout s'en va, à l'image de Jonathan en ombre portée sur sa moto qui semble filer devant le monde de Cosé, total, éphémère, spirituel, sur l'affiche qu'il a dessinée pour cette 45e édition d'Angoulême, le festival international de la bande dessinée.
Boomerang, boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous et bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui fait donc surgir le monde du bout de son crayon, ce vaste monde qu'il nous a fait parcourir de la Suisse au Tibet, donc en passant par la Birmanie, l'Himalaya ou encore les États-Unis. Il est auteur de bandes dessinées, vous l'avez compris, lauréat du Grand Prix du Festival d'Angoulême l'an passé. Il en est cette année le président et c'est donc à lui que l'on doit l'affiche haute en couleur de cette édition qui s'ouvre après-demain. Bonjour Cosé.
Bonjour Augustin.
Merci beaucoup d'être là. Qu'est-ce qu'elle vous évoque cette affiche une fois terminée, quand vous la regardez? Vous?
J'avais des scrupules à dessiner mes personnages. Je pensais qu'a priori, ce serait de bon temps de dessiner le marsupilami, Corto Maltese et Tintin.
Oui.
Et puis Stéphane Beaujean, le directeur artistique du festival, m'a dit non, au contraire, on est content si tu fais tes personnages. Parce que ça veut dire que chaque année, avec un nouveau lauréat, ce sera des nouveaux personnages. Donc je suis très content d'avoir pu intégrer mes personnages dans un mandala.
À partir donc de cette forme, de ce dessin qu'est le mandala, c'est comme ça que vous l'avez conçu? Au départ, c'était l'idée première?
Moi, je cherche tout azimut, et puis finalement, ça m'a semblé bien résumer cette présence de l'Asie dans tous mes albums, ou presque, et tout en m'amusant à placer mes personnages d'une façon inhabituelle en bande dessinée. Par exemple, on a Mickey la tête en bas.
La tête en bas, oui.
Parce qu'ils sont composés comme dans un mandala traditionnel tibétain.
S'il devait y avoir un mot pour faire la synthèse de votre travail, puisque c'est à ça qu'on pense quand on voit cette affiche, ce serait quel mot pour vous?
J'ai envie de reprendre le titre de l'expo qu'Angoulême me consacre, et ce mot ce serait épure.
L'épure?
Ouais. Dans le meilleur sens du terme, parce qu'on peut toujours trouver des mauvais sens à tout, bien sûr. Mais oui, c'est la recherche de la simplicité où dans un dessin, chaque trait est indispensable. Il n'y a rien de trop. On pourrait plus rien enlever. J'y arrive jamais, bien entendu, mais c'est cette recherche.
C'est l'évolution de votre travail aussi, de plus en plus vers l'épure, Cosé?
J'essaye, c'est vraiment ma direction, oui.
Et le mot voyage?
Ah ben ça c'est pas mal, hein. Comme ça le matin. Oui, ça fait rêver de découvrir des choses nouvelles. Ça, c'est plus facile d'avoir un regard nouveau sur des éléments nouveaux que sur des éléments habituels. Mais en principe, il faudrait avoir ce regard nouveau avec tout.
Votre premier voyage en dehors de la Suisse, Cosé, c'était où? C'était quand? Est-ce que vous en souvenez?
Oh là là. Oui, mon premier voyage m'a emmené à Tahiti. Ça m'étonne moi-même de le dire. J'y avais plus pensé. Ben oui, j'avais dessiné pour un quotidien suisse 24 heures. Une petite bande dessinée, et comme il collaborait avec différents journaux, dont La Dépêche de Tahiti. Eh bien, La Dépêche m'a invité en disant, on a bien aimé ce que vous avez fait pour 24 heures en Suisse. Venez nous dessiner une petite bande dessinée. Donc, je suis parti à Tahiti pour je sais plus combien de temps.
Et ça a permis d'enrichir votre dessin, ce voyage?
Ça m'a permis de voir que le voyage enrichit le dessin, comme vous dites.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que ça donne non pas une autorité, mais une aisance de parler d'un sujet qu'on connaît même un tout petit peu, mais on a une approche personnelle et pas uniquement celle des documents, photos, etc.
Par exemple, quels paysages, quels objets, quels visages est-ce que vous avez rapporté de ce périple à Tahiti?
Oh, c'est vieux, hein. Ouais. J'étais débutant, j'avais un dessin relativement humoristique, mais oui, ça m'a permis d'imaginer des personnages inspirés de quelques rencontres. très indirectement.
En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que rien que sur cette affiche, on ressent l'importance du voyage et de cette destination, comme l'Asie dont vous venez de parler, dans votre univers. Et tout a commencé avec le Tibet, dans les années 70, que vous croquez dans ce qui sera le premier album de la série des Jonathan. Pourquoi le Tibet ?
Pourquoi telle affinité ? C'est mystérieux. Mais bon, j'aimais bien la montagne, je m'intéressais dès l'adolescence aux philosophies orientales. Donc voilà, on atterrit. Puis il y a eu Alexandra David Neil, il y a eu Tintin au Tibet.
Ah bah c'est ça, moi je m'attendais à ce que vous me disiez Tintin.
Et ben voilà.
C'était la réponse. Ça vous est tombé dessus le Tibet comme ça ?
Oui, comme ça, petit à petit, la montagne et toutes ces lectures. Et puis, il y avait très très peu de photos sur le Tibet actuellement, alors qu'aujourd'hui, en librairie, ça foisonne, les beaux bouquins de photos. Il y avait très peu, donc je suis arrivé très vite à court de ces documents. Et ben, la seule solution, c'était d'aller faire ma doc moi-même.
Et l'Asie, vous l'avez sillonnée, causée du Cachemire au Japon, comme on le voit d'ailleurs dans les tout derniers tomes de Jonathan. L'Asie ne sont pas simplement de nouveaux sujets à dessiner, c'est aussi un rapport particulier au dessin, à la bande dessinée, à la peinture, non ?
Ben, en voyageant, je me suis intéressé à la culture des pays que j'ai visités. Ça a également pu se passer en visitant le musée Guimet ou le British à Londres, etc. Mais, et donc, je me suis intéressé aux arts de ces pays. Et là, j'ai découvert cette autre façon de ces représentations très symboliques, très stylisées qu'on trouve dans les arts asiatiques.
Chez un peintre comme Hokusai, par exemple, dont vous semblez reprendre dans l'une des premières planches de votre dernier album Calypso, la célèbre Grande Vague de Kanagawa. Qu'est-ce que vous aimez ? Qu'est-ce que vous allez chercher ?
Et justement, cette simplicité, ce pouvoir d'évocation, c'est-à-dire c'est plus tellement une représentation de la réalité, mais une évocation. Donc le dessin ne prétend pas tromper notre œil, ne prétend pas être réel. Il s'assume en tant que dessin, il accepte ses propres limites, par exemple le trait chez Hokusai, et dans la plupart des bandes dessinées, elles sont assumées, mais c'est comme un véhicule qui nous fait imaginez nous-mêmes, le lecteur participe, il imagine lui-même le sujet.
Quand est-ce que l'épure est devenu l'objet d'une quête dans votre travail ? Pour reprendre donc le titre de la rétrospective qui vous est consacrée cette année à Angoulême, parce qu'on voit que ça a quelque chose à voir avec le dessin asiatique.
Oui, en fréquentant, par capillarité, on va dire, petit à petit, voyage après voyage.
Qu'est-ce qui a le plus changé dans votre dessin en 40 ans, Cosette ?
Alors j'espère que j'ai fait des progrès parce que très... non mais honnêtement, je suis parti de tout en bas.
Ça veut dire quoi tout en bas ? Vous savez pas quel niveau je suis moi.
Ok, mais moi je fais pas de radio.
Vas-y aujourd'hui.
Oui, mais pas en tant qu'animateur. Et oui, mon dessin à ce moment-là était très honnêtement, très objectivement, était assez faible. J'ai été publié, je pense, parce qu'il y avait une originalité dans ce que je racontais, mais dessin faible, encore une fois. Et donc, je peux dire aujourd'hui que je crois que j'ai progressé.
Par exemple, si on prend l'exemple de la montagne telle que vous la dessinez dans À la recherche de Peter Pan il y a 34 ans, en quoi est-ce qu'elle diffère de celle que vous dessinez dans Calypso ?
À ce moment-là, il y avait déjà cette recherche, à tel point que dans ma couverture, j'ai dessiné un skieur sur une grande page presque blanche.
Couverture mythique.
Ben, merci.
Non, mais dans le sens où elle se détachait des codes de l'époque.
À tel point que l'éditeur n'en voulait pas. Il pensait que c'était pas possible d'avoir une couverture toute blanche comme ça, avec juste un skieur et trois sapins. Et il était inquiet. J'ai insisté, j'ai montré mon obstination. Et je pense que j'ai bien fait. Mais oui, c'était cette recherche, encore une fois, de l'évocation. Donc la neige blanche, je l'ai pas dessinée, c'est le papier.
Et puis je remarque quand même que dans Calypso, la montagne est en noir et blanc. Et ça, c'était une première. Pourquoi est-ce que vous teniez à ce point à la couleur ?
Alors, dans Calypso, tout est en noir et blanc, alors que j'adore la couleur.
Oui.
Je suis un coloriste avant tout. Les dessins, j'ai dû apprendre à dessiner, j'ai dû progresser. Le scénario aussi. La couleur, c'est relativement naturel pour moi. J'aime la couleur. On ne peut pas en vivre, donc je suis obligé de dessiner et de faire des scénarios à côté. Mais voilà, j'aime la couleur. Et, alors bizarrement, après quelques années de métier, eh bien, j'ai eu envie de me coltiner le noir et blanc, mais d'une façon originale, c'est-à-dire que mes noirs et blancs dans Calypso ne sont pas des ombres, du clair-obscur. Le noir, je les ai considérés comme deux couleurs. C'est une bichromie.
Et quelle couleur précisément ?
Couleur noire, couleur blanche.
Le blanc, c'est aussi la couleur de ces montagnes enneigées que vous dessinez. Et ce que je remarque, moi, toujours, c'est quand même l'omniprésence de ce lieu, avec toute la charge quasi spirituelle aussi de ce paysage. Qu'est-ce qui vous inspire cet endroit, vous qui travaillez au milieu des montagnes, Cosé ?
Oui, je me suis installé au milieu des montagnes parce que je m'y sens très bien. Et Alpes suisses en l'occurrence, mais ça pourrait aussi être en Haute-Savoie, c'est pas loin.
C'est une sérénité ?
Il y a une forme de calme, mais ça, on la trouve aussi en Bretagne, au bord de la mer, ou n'importe où dans la nature, c'est la sérénité de la nature. Ce que j'aime dans la montagne, c'est la simplicité des lignes, des formes, et je pourrais presque dire la gratuité. C'est-à-dire, lorsque vous dessinez un arbre, ou un animal, ou une voiture, il y a une certaine logique à respecter. Un rocher dans la neige, à moins d'être peut-être géologue, il n'y a pas de logique évidente pour nos yeux. Et donc, c'est une forme quasiment abstraite, et j'adore ça.
Celle qui est abstraite, simple et gratuite dans cette émission, peut-être que vous la connaissez, Cosette, c'est la culture et son actualité qui passe tous ses week-ends à Genève, fait du ski nautique sur le lac et hésite toujours à deux fois avant de prendre parti, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, mardi 23 janvier?
Let's declare loud and clear, this is what I want, this is what I need, this is what I desire. This is how you can help me achieve pleasure. Let's make a revolution of desire.
Time's up, le combat continue alors que l'actrice Nathalie Portman a dénoncé samedi le terrorisme sexuel dont elle a été victime dès ses 13 ans à la sortie du film Léon. La réalisatrice Mae Wen s'est exprimée hier pour la première fois depuis que l'affaire Weinstein a éclaté. En réponse à l'émoi provoqué par la tribune sur le droit d'importuner, Mae Wen a appelé à l'unité de toutes et de tous dans ce moment historique. Enfin en Espagne, comme nous le racontait ce matin Anthony Bélanger, un collectif féministe a demandé qu'on abatte une statue de Woody Allen érigée dans la ville d'Oviedo. Chaud. La chasse aux Kunz dans une tribune publiée dans Libération hier. Une petite trentaine de personnalités du monde des arts, dont Olivier Assayas, Christophe Boltanski ou Frédéric Mitterrand, s'opposent à l'installation à Paris du vrai faux cadeau de Jeff Kunz, un bouquet de fleurs, hommage aux victimes des attentats. Jugeant le projet surprenant, au mieux opportuniste, voire cynique au pire, les signataires demandent tout simplement l'abandon du projet.
Ho ho, I found my treasure.
Oh, Mickey.
Minnie, Minnie, I like Minnie.
40 ans, c'est le temps qu'a dû attendre Minnie Mouse pour rejoindre Mickey au firmament des étoiles hollywoodiennes. Et ça, c'est pas très Me Too. En l'honneur du 90e anniversaire du premier dessin animé de Disney, la souris à robe à pois a reçu hier son étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Mickey, lui, a la sienne depuis 1978. Salvant en poupe, la chanteuse franco-américaine Cécile McLaurin Salvant vient de recevoir le prestigieux prix Django Reinhardt 2017, décerné par l'Académie de Jazz. Voix de velours, sens renversant du rythme, c'est la première fois qu'une vocaliste est récompensée depuis la création du prix en 1954 et la quatrième femme seulement. C'est grand. Et l'auteur de bande dessinée Cosette, invité ce matin de Boomerang, président du 45e festival d'Angoulême. Comment ne pas vous faire réagir sur Minnie, vous qui avez collaboré avec Disney pour dessiner Mickey. Êtes-vous heureux, Cosette, qu'elle ait enfin son Hall of Fame, comme on dit aux États-Unis?
Minnie, c'est mon premier amour.
Ah bon?
Ah bah oui.
Alors ça, c'est bizarre. C'est-à-dire qu'il faut le dire, hein.
Ben oui.
Dire d'un personnage de BD, en particulier Minnie, que c'est votre premier amour.
Ah, mais je suis tombé amoureux de plein de personnages de BD. Il y a Pandora, donc Corto Maltese, etc. Mais c'est quand même plus réaliste.
Oui, c'est ça.
Évidemment.
Minnie est un peu plus inquiétante, quelque part.
Oui, mais enfin, elle est craquante.
C'est
elle
sa robe à pois. C'est
moi,
son nœud.
Je pense que c'est ses chaussures, ses escarpins dans lesquels elle nage. Ils sont deux tailles trop grandes. Et puis sa voix, elle est trop drôle.
Est-ce que vous êtes tombé amoureux de vos propres personnages dans la série Jonathan, par exemple?
Alors, c'est un peu l'inverse. Je pense que j'étais amoureux de des fantasmes, en quelque sorte, des idées, et je les ai traduits sur le papier.
Jonathan, ce voyageur suisse amnésique, dont les aventures débutent en 1975 et se sont achevées il y a 5 ans. Pour vous, c'est quoi un bon héros de bande dessinée, Cosette?
Alors, mes personnages ne sont pas vraiment des héros, c'est pas non plus des anti-héros, mais un bon personnage, qu'il soit l'un ou l'autre, pour moi, c'est, en tant que lecteur aussi, c'est quelqu'un à quoi je peux m'identifier, dans lequel je me retrouve.
D'ailleurs, Jonathan est très bouclé, comme vous.
Oui, alors c'est vrai que pour le dessiner et pour le raconter, je me suis un peu impliqué. Je lui ai attribué deux ou trois de mes caractéristiques.
Dont la boucle, Cosette. Pourquoi fallait-il qu'il soit amnésique? Hormis le catalyseur d'histoire, hein, d'aventure, de rebondissement que ça peut générer, quel sens ça avait?
Je pense qu'on est tous, d'une certaine façon, amnésique d'une partie de nous-mêmes. Je pense pas, c'est pas une idée freudienne que j'aimais là, du tout. C'est dans un sens beaucoup plus large. Et ça me semblait intéressant, cette interrogation sur une partie de soi-même qui a été oubliée.
C'est aussi une façon de parler d'une quête, en fait, d'ordre spirituel, pour y revenir. En quoi est-ce que dessiner, raconter des histoires, vous apprend à vous connaître?
Il y a un écrivain chinois dont j'oublie le nom, qui a reçu le prix Nobel de littérature, qui a dit « La raison d'être de la littérature, c'est la reconnaissance par l'homme de sa propre nature. » Et je crois que la fiction est une approche de nous-mêmes, peut-être plus que certaines études tout à fait scientifiques.
En fait, il y a presque quelque chose de métaphysique dans cette quête causée. Et c'est intéressant parce que dans les derniers Jonathan, qui se passent d'abord en Birmanie, puis au Japon, et ensuite en Inde, il est question de fantômes, de temples, d'esprits et Dieu dans tout ça.
Celle-là, je ne l'attendais pas.
Ah bah tiens, ouais. Ah bah, vous ne connaissez pas assez bien Boomerang, sans doute parce que vous êtes suisse.
D'accord, bah oui.
C'est une question qui revient.
Alors les fantômes, ça m'ennuie parce que c'est vraiment un de ces clichés qu'on a vu et revu dans la bande dessinée. Mais oui, mais il y a des choses qu'on interprète, qu'on ne sait pas très bien comment interpréter. Et j'aime bien en parler, les évoquer.
En quoi vous croyez, vous ?
Moi, je crois surtout à l'interrogation, donc à l'antithèse de la foi ou de la croyance, qui ne veut pas dire athéisme ou nihilisme. Mais je pense que l'interrogation est mille fois plus intéressante que la croyance.
D'ailleurs, c'est pas de la musique sacrée que vous préconisez à vos lecteurs dans vos albums. L'une de vos particularités, Cosé, c'est au début de chaque tome de Jonathan d'établir une playlist. Alors si je vous dis par exemple « Obscured by Clouds » de Pink Floyd, ça vous évoque quoi? Quelles images, quels sons, quelles odeurs?
Ça m'évoque le temps où j'ai dessiné quelques épisodes de Jonathan, quelques albums. Et puis ce côté très planant de ces années-là qui correspond bien à la création de mon personnage.
Et en particulier à Souviens-toi. Essayons maintenant The Kick Inside, premier album de Kate Bush. Elle vous évoque quoi?
Ah ben là aussi, j'étais amoureux une fois de plus.
De Kate Bush ou de Kate, votre personnage?
Les deux.
En général.
On n'est pas obligé de choisir, ou bien?
Non. Allez, un dernier pour la route, si je vous dis 461 Ocean Boulevard, Eric Clapton.
Ouais, c'est bien. C'est un autre genre, mais c'est bien aussi, je l'ai mentionné. Ça fait partie de ces musiques que j'écoute en boucle, en écrivant un scénario.
On l'écoute?
Ah bah oui.
Ah bah on l'écoute, ce bon vieil Eric, I Shot the Sheriff, sur cet album mythique hein, de 1974. Vous êtes sur France Inter avec Cosé. Vous écoutez Boomerang, mardi. I shot the sheriff.
I swear it was in self-defense. I shot the sheriff, but I swear it was in self-defense. Freedom came my way one day, and I started out in town fair. All of a sudden I see sheriff. So I shot it down. I said.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
J'ai vendu la mèche déjà, il est bouclé comme l'agneau, gris comme la souris, doux comme un plaid en cachemire, avec ses yeux bleus, ça est d'une clarté, d'une pureté, que dis-je, d'une santé, helvétique. Asseyez-vous à ses côtés, vous en ressortirez comme après une cure thermale, teint frais, poumon rose, d'enseigne, avec sa chemise bleu clair à pois. Décidément, c'est une habitude cette semaine, tout le monde a des chemises à pois. Le dessinateur Cosé, président donc du 45e Festival d'Angoulême, invité de Boomerang, Cosé qui est venu ce matin avec un papier et des crayons de couleur et qui a dessiné quelque chose pendant le disque. Vous pouvez nous le décrire, ce dessin?
Ben, j'ai essayé de représenter mon personnage qui s'appelle Lal, qui est une tulku tibétaine.
Qui était dans le Bouddha d'Azur.
Dans le Bouddha d'Azur, très juste. Tulku, ça veut dire réincarné. Vous voyez qu'on est en pleine mystique, là. À 9h du matin, il faut le faire.
Hein. Ouais, j'adore, moi. Vous dessinez tout le temps?
Mais non, je suis pas un dessinateur compulsif. Je dessine dès que j'ai une idée qui me plaît, dès que j'ai un scénario qui me plaît. Mais dessiner pour le plaisir de dessiner, je le fais alors d'observation. Donc ce n'est plus mes personnages, c'est ce que je vois, que j'ai envie de dessiner.
Je remarque quand même que vous n'avez pas dessiné le studio de France Inter, mais une tibétaine. Donc vous parlez d'observation. En tout cas, vous n'avez jamais troqué le crayon ou le pinceau pour la palette graphique et le stylet. C'est par esprit de résistance, ça, Cosé?
Non, du tout. J'ai même essayé. Je pensais faire les couleurs de mon album de Mickey. Avec une palette graphique, je me suis fait assister, initié par un infographiste qui a fait preuve d'une patience extraordinaire. Et après 3 jours, j'ai réussi à m'en sortir, à faire une page entière. Et j'ai compris que j'avais aucun plaisir.
D'accord.
J'aimais tellement le glou-glou du pinceau dans le pot d'eau, les taches de couleur sur les mains, que l'ordinateur n'arrive pas à faire malgré toutes ses qualités.
Qu'est-ce qui se passe en fait quand vous prenez votre crayon, quand vous posez les couleurs sur le papier?
Mais il y a un côté tactile de toucher que vous n'avez pas sur cette palette graphique. Alors, et puis j'aime bien, il y a un côté aléatoire aussi quand on mélange des gouaches, alors qu'à l'ordinateur vous avez une précision extraordinaire, ce qui est une qualité bien sûr. Mais il y a plus ce mystère. Enfin, moi, j'avais aucun plaisir. Ça m'empêche pas d'apprécier les travaux de certains de mes confrères qui font des chefs-d'œuvre sur ordinateur. Donc, c'est pas un préjugé, mais c'est pas pour moi.
Là, vous avez choisi un crayon marron avec du rouge.
Oui, j'ai choisi celui qui s'approchait le plus de. Mais c'est pas du travail de professionnel. C'est une dédicace. Quand je travaille dans mon atelier, c'est quand même un tout petit peu plus compliqué que ça.
Vous m'interdisez de le vendre, Cosé? Non,
évidemment.
Je plaisante.
Non, mais
quelle technique est-ce que vous préférez, vous d'ailleurs, l'aquarelle, la gouache, le crayon de couleur, comme ça?
Non, ça convient bien pour la dédicace. Dans mon travail, c'est la gouache parce que ça permet plus de maîtrise. On peut corriger. Mais par exemple en voyage, lorsque je fais des esquisses, j'adore l'aquarelle. Là, il y a un côté improvisation qui est magnifique.
Ça dépend du lieu, en fait.
Oui, ça dépend du sujet et puis du moment. Voilà, on mélange les couleurs, il y a de l'eau, parfois ça bave un peu, mais c'est un vrai plaisir.
Mais quand est-ce que vous avez commencé à dessiner tout compte fait? Vous vous souvenez?
Mais je pense comme tout le monde, enfant, et puis la différence, c'est que j'ai pas arrêté, j'ai continué.
C'était pourquoi?
Mais le plaisir de dessiner, de représenter. Alors j'ai beaucoup copié, j'adorais lire des bandes dessinées, vous n'êtes pas étonnés. Et alors je copiais les albums, enfin une partie, une image d'un album que j'avais adoré.
Pour inventer une suite, en fait, à cet album?
Oui, je faisais des pseudo-suites où j'adaptais, je m'attribuais tous les mérites de ce que je copiais. Et bien sûr, c'était des faux, des plagiats.
C'est comme ça que vous avez dessiné Mickey la première fois, par exemple?
Oui, bien sûr, mais à 7-8 ans.
Mickey, à qui vous avez consacré un album, hein, il y a 2 ans, on le disait, qui s'appelait La Mystérieuse Mélodie, où vous racontiez la rencontre entre Mickey et Minnie. Pourquoi c'est un rêve de gosse, ça?
Tellement de plaisir à lire un album de bande dessinée que je redessinais, j'essayais de faire mes propres albums que j'agrafais. Je mettais copyright, je mettais tout ça.
Il y a d'autres œuvres de la BD que vous aviez envie de faire revivre?
Ah oui, plein. Il y a eu Spirou et Fantasio, Jean et Pierre-Louis, Gilles Jourdan, Chlorophylle.
Et aujourd'hui?
Jerry Spring. Aujourd'hui, non, j'évite de copier mes confrères, j'admire leur travail.
Non, mais poursuivre une bande dessinée rêvée. Un Tintin, par exemple.
Oui, alors aujourd'hui, j'essaye de créer mes propres albums en espérant qu'ils vont apporter le même bonheur que j'ai ressenti en lisant ceux des autres il y a très longtemps.
Mais si vous deviez inventer une suite à Tintin, vous l'emmèneriez où, Cosé? En Suisse, peut-être?
Ça, c'est top secret.
Ah, c'est vrai?
Ah, bah oui.
Ah, vous savez déjà?
Mais oui.
Et un nouveau Lucky Luke?
Bah, j'y ai pas pensé, mais c'est une bonne idée.
J'avais lu l'histoire des vrais Dalton, qui n'est d'ailleurs pas tellement intéressante, et j'avais remarqué dans ces données historiques qu'ils étaient très bêtes. Il paraît que toutes les attaques de banques et de diligences qu'ils avaient faites manquaient tout à fait d'imagination, rapportaient très peu d'argent, Enfin, c'était le fait de gens très très bêtes et j'ai trouvé que c'était une chose à exploiter. Physiquement, je n'ai pas du tout respecté les quatre vrais Dalton, mais cette bêtise, j'ai essayé de l'exploiter au maximum.
L'auteur Maurice, en 1967, causait parce qu'il se trouve que c'est une planche de Lucky Luke dont vous avez choisi de nous parler ce matin. Deux pages même, qu'est-ce qu'on y voit sur ces planches?
On y voit dans son style tellement souple et qui semble improvisé et simple. Ce qu'on disait tout à l'heure, une évocation, non pas une description. On y voit les cousins Dalton qui essayent de devenir des brigands de grand chemin. Et comme l'étaient les frères Dalton. Et alors ils s'entraînent, j'ai trouvé ça tellement drôle, ils s'entraînent à être méchants. Donc par exemple devant le miroir, ils font des grimaces pour avoir l'air abominable. Et puis en même temps, ils s'astreignent, c'est ça que je trouve très drôle. Ils s'astreignent à un régime diététique, hein, carottes crues, yaourt. Et ils s'astreignent à une discipline incroyable juste pour être malhonnête. Et voilà, ça m'a fait bien rire.
Qu'est-ce qui vous a appris, Maurice?
Ah ben, toujours cette simplicité du dessin. Vous voyez, alors évidemment, le dessin de Lucky Luke sur Jolly Jumper, c'est quand même pas si simple que ça. Mais il symbolise les déserts avec une ligne horizontale. En bas, c'est jaune, en haut, c'est bleu, et on est dans le désert.
Et votre plus grande leçon de dessin, somme toute, qu'est-ce que ça a été?
Oh, il y en a plein, je peux pas en trouver une seule. Mais l'exemple qu'on vient de donner, il y a des bandes dessinées d'une simplicité extraordinaire. Par exemple, il y a Nancy, je ne sais pas comment elle s'appelle en français, c'est un personnage de bande dessinée quotidienne américaine des années 30, qui a un dessin d'une simplicité, on pourrait presque dire d'une maladresse incroyable, et en même temps ça fonctionne. On ne peut pas ne pas lire ces trois cases d'une bande dessinée, d'une bande vraiment, un strip. C'est pas possible de ne pas le lire. Ça fonctionne, malgré un dessin assez limité.
Et si vous deviez donner ne serait-ce qu'un conseil à un auteur de bande dessinée en herbe causée, quel serait-il?
Je lui dirais d'essayer de réaliser l'album qu'il aimerait lire lui-même. Quand il va en librairie, ou elle, quand elle va en librairie, qu'elle ne trouve pas ou qu'il ne trouve pas l'album dont il rêve, ben il faut le faire soi-même, et ça, ce sera super.
Merci infiniment d'être venu faire un tour dans cette émission. Je rappelle que le Festival d'Angoulême démarre jeudi, en partenariat évidemment avec France Inter, et qu'une belle rétrospective causée, un art de l'épure, vous sera donc consacrée. En plus évidemment, d'un coup de projecteur sur l'univers des dessinateurs japonais, Osamu Tezuka, l'auteur d'Astro Boy, ou encore Naoki Urasawa et Hiro Mashima. Votre œuvre causée, je le souligne, est publiée aux éditions Le Lombard et Futuropolis, entre autres. C'est le moment pour tous de s'y replonger. Tout de suite, les médias. Sonia De Villers.